dans la machine.
Et passe les sages, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Et oui, c'est l'émission Le Grain de Sable, comme le grain de sable dans une machine qui cause un problème, du mouvement Attaque. Attaque, je vous rappelle, c'est quoi, là? On est tous membres d'Attaque à l'émission, là. L'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Transactions financières, là, vous comprendrez, là, les milliards de dollars qui circulent sur la Terre à chaque jour de manière assez irresponsable. Tout croche. Donc, on se positionne du point de vue citoyen contre les paradis fiscaux et pour une plus grande démocratie en général dans nos affaires publiques. Je fais un comeback, pour ceux qui me connaissent, un retour à Michael Lassard. C'est ça, je fais la mise en onde aujourd'hui, un peu d'animation. L'émission a été surtout produite par Étienne Blondeau, qui est ici aujourd'hui.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Donc, Étienne, il nous présente on va le présenter en détail plus tard. Là. Je vais vous présenter un peu l'équipe.
Oui.
Mais grosso modo, tu as enregistré une conférence anglophone.
C'est
et tu as fait le travail de moine de nous offrir une traduction.
Oui, j'ai fait la traduction moi-même. Il va y avoir 4 extraits plus tard à l'émission.
Oui. Donc, c'est des capsules d'environ de 5 à 8 minutes. Mais à travers ça, on met de la musique là, pour alléger, vous divertir. Puis je vous dis que la plupart des chansons ont été choisies par David Maxime Sanson, que vous connaissez peut-être. C'est un photographe pas mal au service de la communauté. Là. Vous avez peut-être vu ses photos dans monsaintroch.com, monlimoilou.com, le magazine Bazar et plusieurs autres. Quand vous voyez des photos à Québec, c'est souvent David Maxime. Donc, c'est lui qui a choisi la musique aujourd'hui. Et ça a été assisté aussi aujourd'hui par Michel Monette et Dominique Bernier, tous membres d'Attaque Québec. Est-ce que j'oublie quelque chose?
Un peu le oui, c'est ça, c'est l'équipe.
Ouais. Donc, c'est ça. Parle-nous de la conférence. Pourquoi?
Oui, c'est ça. C'est que l'émission que j'ai préparée aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une demande spéciale il y a un bon bout de temps, de nombreux mois. Quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire une émission sur l'histoire de la monnaie, l'histoire de l'argent, expliquer d'où ça vient, quand ça a apparu. J'ai pas eu l'occasion de le faire avant maintenant. C'est pour ça que j'ai pris une conférence d'un historien qu'on écoutera plus tard. D'ailleurs, la conférence originelle en anglais, ça va être sur le blog. Ceux qui veulent aller vérifier le blog pour l'écouter en original anglais, l'adresse c'est legraindesableqc.wordpress.com pour ceux qui préfèrent l'anglais. Et voilà, donc si je résume en quelques mots, là, qu'est-ce que c'est que l'argent? Eh bien, c'est simple, c'est une mesure de la dette. Ce qui est intéressant, tout comme, par exemple, la distance peut être mesurée en mètres, le temps peut être mesuré en minutes, eh bien, la dette que quelqu'un a envers quelqu'un d'autre, elle est mesurée en dollars ou n'importe quelle autre monnaie.
En monnaie, ouais.
Et c'est ça qui est intéressant parce que tous ceux qui ont à la maison un livre d'économie 101, ben c'est bon pour la poubelle, si je me fie aux historiens que j'ai écoutés, parce que leur histoire de la monnaie est mauvaise, comme si c'était surgi comme par magie, comme ça. Alors que c'est toujours l'État qui l'impose. C'est toujours un roi ou un empereur dans l'Antiquité qui arrive et qui dit « Voilà, vos dettes seront mesurées en tel chiffre et c'est moi qui vous dis quel est ce chiffre-là. C'est moi qui vous l'indique, vous le donne. » D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Dès qu'un nouveau roi apparaît dans une société ancienne, dès qu'une nouvelle dynastie commence, des fois, la première chose qu'il faisait, c'était d'imposer de nouveaux poids et mesures. Comme par exemple, quand on regarde aux États-Unis, ils mesurent en livres, ils mesurent les distances en yards, en pieds. On appelle ça le système impérial. Ben ça vient d'où? Ça vient de l'Empire britannique.
Ouais.
Il y a un roi britannique qui a imposé ces mesures-là. C'est pareil pour l'argent. L'argent, la monnaie, tombe pas du ciel. Il y a un roi qui arrive et qui dit « Aujourd'hui, vos dettes les uns envers les autres, ben ce sera mesuré avec ce que
Si je comprends bien, au sein d'une petite communauté ou une tribu, les gens vont pas nécessairement utiliser d'argent. Ils n'ont pas nécessairement de besoin. Entre peuples, par contre, entre communautés, par exemple, entre les Autochtones, il y avait des formes de monnaie, du troc aussi beaucoup.
En fait, c'est ça. La culture du troc n'existe que dans les mauvais manuels d'économie. C'est ça qui est particulier. Les économistes connaissent très mal les Amérindiens. Moi, les Amérindiens, eux, c'était quasiment une culture de dons et de charité. Tout comme toutes les cultures anciennes. semaine. C'est toujours la même manière. C'est
selon les besoins.
C'est ça. Vous avez juste une phrase à retenir. C'est du monde qui se connaissait, qui se disait « je t'en dois une ». Quelqu'un donne un cadeau à quelqu'un, il lui répond « ah ben, je te revaudrai ça, je t'en dois une ». Un orage détruit le toit de votre maison, les autres villageois se mettent ensemble, le réparent et vous disent « ah ben, je vous en dois une ». Donc, vous voyez, des dettes les uns envers les autres, je vous en dois une, mais c'est pas mesuré, c'est pas chiffré.
On pourra en reparler, là. Il y aurait plusieurs points de vue là-dessus. Mais on va commencer la musique avec la chanson « Allez, allez, allez » de Camille.
Allez, allez, allons à chaque coup de rame. Prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons à chaque coup de pioche. Prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allez, allons, allons, allez, 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 allons, à chaque coup de sabre, prends l'écorce des canailles.
Deviner que c'était acoustique. J'ai oublié de dire en introduction que vers la fin de l'émission, 10 minutes avant 14 heures environ, là, on va nommer plusieurs événements intéressants qui ont lieu à Québec, dont le Printemps des Alternatives, le 25 avril et quelques autres. Mais on va écouter la première capsule. Peut-être que, Étienne, tu peux nous rappeler le nom du conférencier?
Oui, c'est un monsieur qui s'appelle Michael Hudson, professeur et chercheur à l'Université du Missouri à Kansas City. Ce que vous allez entendre, c'est une conférence de 2012.
Okay, on y va.
Very strange to have a historian, an economist on the same program.
J'apprécie qu'on ait un historien et un économiste à la même conférence. Je disais justement à un collègue en blaguant que si la science économique a raison, l'histoire n'a pas pu exister. C'est logiquement impossible, d'après tout ce qu'on vous enseigne dans les départements d'économie. Mais si au contraire l'histoire a existé, alors tout ce qu'on enseigne en économie appartient à un univers parallèle à de la science-fiction. L'histoire et les cours d'économie sont incompatibles. Les économistes disent que l'argent, l'intérêt, le crédit ont tous commencé avec des individus qui faisaient du troc entre eux, comme si des néolibéraux vivaient sur une île déserte en décidant d'essayer de faire du troc entre eux de manière à faire un profit aux dépens des autres avec beaucoup d'égoïsme. Quand on regarde l'histoire, cependant, c'est pas ce qui est arrivé. Dans les sociétés primitives de la dernière ère glaciaire, jusqu'à l'âge de pierre, jusqu'à l'âge de bronze, et même aujourd'hui encore, avec les sociétés primitives étudiées par les anthropologues, il est toujours vu comme inapproprié d'essayer de faire de l'argent, de faire du profit. Si un néolibéral était le chef de village ou le chef de tribu et essayait de faire de l'argent, il aurait été renversé à cause de ses mauvaises manières. En Australie, ils disent qu'un clou qui dépasse du bois finit par se faire frapper par un marteau. La raison est que dans une société qui amasse très peu de surplus, si quelqu'un fait beaucoup de profit, il le fait forcément sur le dos d'un autre. La pauvreté des autres. Telle société peut pas se permettre de laisser quelqu'un devenir riche au dépens des autres en les faisant tomber en dessous du seuil de pauvreté, au point où des pauvres seraient incapables de vivre par eux-mêmes, incapables de posséder leur propre terre. Si on laissait ça arriver, qu'est-ce qui se passait? Les pauvres en avaient assez et quittaient la société. Ils allaient voir ailleurs. Nous, les Irlandais, avons tendance à dire de nos élections qu'on vote en montrant notre dos. Même aujourd'hui, dans une société néolibérale insoutenable, les travailleurs essaient d'émigrer, de fuir, comme le font les Grecs. C'est toujours passé comme ça depuis des dizaines de millénaires. Alors, ce qui s'est produit dans le développement de la civilisation occidentale, c'est qu'il y a eu une partie du monde où il a été nécessaire d'avoir un surplus, alors que l'idéal de chaque société procédante était d'être autosuffisante. Chaque personne est incapable de faire pousser sa propre nourriture et de subvenir à ses besoins. La plupart des gens dans le Proche-Orient, de l'Antiquité, devaient posséder des terres en campagne pour supporter leurs besoins alimentaires, même s'ils habitaient dans une maison en ville. Cependant, en Mésopotamie et au Proche-Orient, le sol était très fertile. Il était fait de dépôts laissés par des rivières pendant des millions d'années. Ce sol très riche était parfait pour faire pousser des céréales. Mais puisque le terrain était fait de cette terre laissée par des rivières, on n'y trouvait pas de pierres, on n'y trouvait pas de métaux, et il n'y avait pas non plus de bois dur, de bois de construction. Ils étaient donc forcés de commercer. La question était, si vous aviez à vous installer dans ce coin du monde, qui correspond à l'Irak actuel, comment alliez-vous obtenir le métal et les matériaux de base pour faire que l'âge du bronze soit l'âge du bronze, pour faire tous les outils en métal servant à travailler la terre? La solution a été de créer des institutions publiques, des temples et des palais. En gros, ils ont évolué à partir des maisons des chefs de village. C'était aussi une société multiethnique avec des Sémites, des Sumériens, ceux-là personne ne sait vraiment d'où ils venaient, et beaucoup d'autres groupes. Tous ces groupes devaient s'entendre sur un même standard économique, et leur choix pour standardiser leur économie est l'ancêtre de toutes les entreprises et les institutions qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent, la monnaie, les dettes, le paiement d'intérêts, les contrats, les héritages. Toutes ces conventions-là viennent du même endroit dans le monde, Sumer, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Environ de 3200 à 1200 avant notre ère. Alors, les palais étaient en gros le lieu où les surplus de la société, en céréales et en matériaux, étaient stockés et gérés. Ces palais avaient un peu le même rôle que les chefs de village des sociétés précédentes, où le chef avait toujours à faire vivre les veuves, les orphelins, les handicapés et tous les dépendants dans la maison. Dans leur maison, la maison du chef. Alors, les temples à Sumer ont joué ce rôle-là. Je dois préciser à mon public d'économistes que les veuves et les orphelins de l'Antiquité n'avaient pas de prestations sociales ou d'épargne pour les aider. Les veuves et les orphelins étaient les individus les plus pauvres de leur société. Quand la Bible les mentionne, il n'est pas question de veuves et d'orphelins de milliardaires qui vivent de leur rente.
C'était la première capsule. Pour aller en musique, je vous propose la chanson thème de la série Viking, mais au complet. Au complet, c'est intéressant parce qu'il y a une voix féminine à la fin, la chanteuse Fever Ray, qui est la chanteuse principale du groupe, en fait. C'est ça, Viking, c'est intéressant, là, surtout que les paroles disent, dans ce cas-ci, j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus, sans arrêt. Et voilà, j'en dis pas plus. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez pouvoir... Actuellement, dans la série, les Vikings sont en train d'attaquer Paris, ni plus ni moins.
C'est intéressant, ça.
Chanson thème de la série Viking, excellente série. On passe à la capsule 2 de la conférence.
Ces temples-là de Sumer employaient les veuves et les orphelins dans leurs fabriques de textiles. Les temples confiaient ensuite les tissus produits par les dépendants de la société à des marchands qui partaient avec une certaine quantité de tissus, par exemple l'équivalent de 5 mines, la monnaie de l'époque. Ils avaient à revenir après 5 ans avec le double de la somme. C'est l'origine du concept d'intérêt. C'était une approximation de ce que les marchands pouvaient tirer comme profit en vendant ce tissu. Les 5 ans étaient une période de 60 mois. Alors le standard de l'époque, leur monnaie, les mines, était divisé en 60 shekels, comme les heures ou les minutes aujourd'hui. Cette tradition de diviser en 60 provient de cette société sumérienne. Alors le marchand avait une dette qui doublait en 5 ans. Graduellement, il y a aussi eu des institutions publiques qui se sont chargées des terres abandonnées ou inutiles. Ils louaient ces terres à des cultivateurs pour un tiers des céréales qui y seraient produites. Puisque le tiers des céréales était perçu, le taux d'intérêt a été fixé à un tiers aussi. Alors, si quelqu'un avait besoin d'argent, les prêts avaient un taux d'intérêt de un tiers. Même les femmes tenancières de bar, si elles faisaient un crédit au client, c'était à ce même taux de un tiers. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces dettes étaient exprimées en orge. Ce que beaucoup de dirigeants de l'époque ont fait, c'est d'annoncer des listes de prix. Par exemple, les codes des lois d'Amourabi ont annoncé qu'un shekel d'argent serait l'équivalent d'un litre d'orge. Alors, un homme endetté qui faisait pousser de l'orge pouvait payer en orge. Il a une dette d'un shekel envers son voisin, le roi, et non le marché, mais bien le roi, a dicté le prix de un litre d'orge pour un shekel. Alors, l'homme qui doit un shekel à son voisin le paye avec un litre d'orge. L'État déterminait les autres taux de change pour les moutons, la laine et toutes sortes d'objets pouvant servir à payer des dettes. Alors, l'origine de l'argent, c'est l'État qui imposait des listes de prix afin de permettre aux gens de payer leurs dettes en espèces avec les objets qu'ils avaient. Pour ce qui est de l'orge, n'imaginez pas que les gens se promenaient avec de l'orge dans leur poche. Les gens ne se payaient pas entre eux avec de l'orge. En fait, ce que les magasins ou les tenancières de bar faisaient, c'était faire un crédit à leurs clients. Alors, les clients de commerce et de bar ne payaient pas immédiatement ce qu'ils achetaient. Ils payaient pas immédiatement leur bière avec de l'orge qu'ils avaient dans leur poche. Ils allaient payer ça plus tard. Ils allaient payer ça plus tard, au moment où ils en auraient de l'orge, c'est-à-dire au temps des récoltes. Des fois des mois plus tard. Pratiquement toutes les dettes en orge, et on a les contrats, plusieurs contrats ont survécu jusqu'à nos jours, étaient dus en même temps, au temps des récoltes. Les dettes exprimées en argent étaient dues pour une date différente, bien spécifiée. C'était le principe qui a duré jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ. Après, il y a eu ce qu'on appellerait une mini-ère glaciaire. Il y a eu un âge sombre et on perd toutes les statistiques et toutes les écritures jusqu'à 750 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu une reprise économique. Des commerçants venaient de Syrie, de Phénicie, traversaient la Méditerranée, commerçaient avec la Grèce. C'est là que la civilisation en Mésopotamie, l'Irak actuel, a décliné. Les gens considèrent cette période comme le début de la civilisation occidentale. Mais ce que les gens croient être le début de la civilisation occidentale est la chute et la désintégration de cette civilisation du Proche-Orient, non pas. De ce système économique qui a été conçu et planifié pour être bien organisé. Ensuite, on observe au Proche-Orient la montée de chefs locaux. Au même moment, à Rome, les familles d'aristocrates renversent leur roi, c'est le début de la République romaine. À cette époque, les fonctions qui étaient celles du secteur public sont appropriées par des familles privées. Appelons-les les mafias, parce que c'est ce qu'elles étaient essentiellement, l'oligarchie romaine. Il y a un changement politique lorsqu'on passe de l'âge de bronze du Proche-Orient à l'Antiquité classique. Au Proche-Orient, dès qu'un nouveau roi s'emparait du trône, la première chose qu'il faisait était de proclamer que l'ardoise serait effacée, que toutes les dettes seraient effacées. C'est qu'une bonne partie des dettes exprimées en orge ne pouvaient pas être payées. L'effacement des dettes était une tradition. Les lois d'Amourabi de 1750 avant Jésus-Christ disaient que s'il y avait une inondation, les dettes étaient effacées. S'il y avait une sécheresse, les dettes étaient effacées. S'il y avait des guerres qui empêchaient les paiements, les dettes étaient aussi effacées. Déjà à l'époque, les gens comprenaient que les dettes ont tendance à grossir plus vite que les moyens de les payer. On a aujourd'hui les textes d'exercices mathématiques que les scribes avaient à apprendre à Babylone en 2000 avant Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer ma surprise, moi qui a enseigné l'économie de second et troisième cycle pendant plusieurs années à New York, quand j'ai vu que les mathématiques utilisées en 2000 avant Jésus-Christ étaient de loin supérieures à nos modèles mathématiques utilisés aujourd'hui. Pas seulement parce que ces scribes de l'Antiquité avaient à apprendre les équations quadratiques, mais parce qu'elles avaient deux notions de base. Un de leurs exercices était de calculer le temps que ça prendrait pour qu'une dette double. Combien de temps prendrait une mine, leur monnaie de l'époque, pour doubler en valeur? La réponse est 5. Combien de temps pour quadrupler de valeur? 10 ans. Combien de temps pour augmenter de 62 fois en valeur? 30 ans. Alors, ils savaient que les dettes pouvaient augmenter exponentiellement, comme ça, très rapidement. Ce qu'ils avaient aussi, c'était des courbes pour la croissance des troupeaux. Et leur courbe était une courbe en forme de S. Tout comme les statistiques économiques d'aujourd'hui sont fréquemment représentées en courbe de S. Alors, ils concluaient à l'époque qu'il y avait une tendance de la dette à croître plus vite qu'elle n'était repayée. Les rois avaient donc cette tendance d'annuler toutes les dettes de temps en temps. Ils avaient raison de le faire. Malheureusement, à Babylone ou à Sumer, ils n'ont jamais écrit de manuel intitulé, par exemple, « Voici comment nous faisons les choses ». Mais un des historiens romains a écrit l'explication que lui ont donnée des Égyptiens quant à savoir pourquoi les pharaons annulaient les dettes. Ils ont dit « Si on n'annule pas les dettes, les endettés vont tomber dans la servitude envers leurs créanciers, comme on peut le lire dans la Bible. Ensuite, on n'aura personne pour se battre dans notre armée et nous serons vaincus. Alors, pour avoir une armée terrestre, on a besoin de retourner leurs terres à ceux qui les ont perdues aux mains de leurs créanciers. Il faut les libérer de l'esclavage. Si on ne le fait pas, tout le monde va finir misérable et les gens vont fuir notre pays. Il y aura une dépopulation et nous serons vaincus. »
Fort du vif succès connu au Moins Multi en 2014, les artistes duo Mathieu Campagna et Myriane Rouillard nous convient à nouveau à leur performance Opium, une expérience musicale onirique aux frontières de l'inconscient. Étendu sur une couche ou dans un hamac et plongé dans la noirceur, le spectateur se laisse bercer par une œuvre musicale aux effets narcotiques et hallucinants. Du 23 au 25 avril, au studio d'essai de la coopérative Méduse, billets en vente sur le point de vente et à la porte. Informations, mmrectoverso.org.
La Friperie du Pavois est là pour vous. Depuis plusieurs années, la Friperie du Pavois, entreprise d'économie sociale, se spécialise dans la vente de vêtements et articles de seconde main à très bas prix. La Friperie du Pavois est là pour tous. Vous trouverez tout ce que vous cherchez. Literie, appareils électriques, jouets, livres, articles ménagers et vêtements pour hommes, femmes et enfants, pour tous les goûts et tous les âges. La Friperie du Pavois est là pour vous. Située dans Limoilou, au coin 4e Avenue et Chemin de la Canardière, on vous accueille toujours avec le sourire le mardi de midi à 16h45, les mercredis et samedis de 10h à 16h45, les jeudis et vendredis de 10h à 20h45. Profitez de nos belles promotions hebdomadaires et ne manquez pas notre grande vente mensuelle à 50% sur tout en magasin. La Friperie du Pavois, 799 4e Avenue. Consultez notre page Facebook.
Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels.
Prochain match, notre finale de la saison 2014-2015, dimanche 10 mai 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$.
La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL.
Depuis 1950, Pneu Bazar est le spécialiste du pneu. On vous offre pour notre 65e anniversaire toutes les grandes marques au meilleur prix. Pneus usagés à partir de 30$. Neufs, seulement 70$ posés et balancés. On vous propose aussi un service mécanique comme les changements d'huile et les services de frein. Nous pouvons souffler vos pneus à l'azote. Service impeccable garanti. Pour en savoir plus sur nos rabais postaux, visitez notre site pneubazar.com. Ouvert de 8h à 17h en semaine et le samedi de 8h à midi. 70 3e avenue, 88-522-1130.
Quand je dis « So long, camarades, tombés dans l'eau de leur nuit, laissant femme ou fils souffrir, pour mieux voir l'étrange lumière. Je pensais à... Moi, te le dire carrément, je pensais à Ève Cournoyer.
Capitaine, ramène le navire à bon port.
Pierre Flynn et sa conscience infinie d'être vivant. La sortie secrète, mardi 21 avril, à 10h.
Au capitaine.
Rebienvenue à l'émission Le Grain de Sable de Attaque Québec. Étienne, peut-être tu peux nous rappeler un peu le... Ben, en fait, il y a une chanson avant, là, mais quand même, pour les gens qui viennent peut-être de s'intoniser. Là.
Oui, on suit aujourd'hui une conférence que j'ai traduite moi-même, une conférence de l'Américain Michael Hudson, qui est chercheur à l'Université du Missouri à Kansas City.
Parfait. Mais avant, on va aller à la musique. C'est une chanson qui s'appelle Superhero du groupe Groenland. Si vous ne connaissez pas, c'est peut-être normal, je ne connais pas du tout, mais David Maxime nous l'a recommandé. Je pense que vous allez apprécier. Groenland. Donc, capsule numéro 3 de la conférence sur l'histoire de la monnaie.
Dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, un général grec nommé Ektikos a écrit un manuel expliquant comment conquérir une ville et comment défendre une ville. Si vous voulez conquérir une ville, vous dites « Je vais annuler vos dettes » et vous aurez les gens de votre côté immédiatement. Si vous voulez défendre une ville, dites plutôt « Je vais annuler les dettes de tout le monde dès qu'on aura gagné. » C'est ce que Coriolanus a fait à Rome, mais les Romains étant des mafiosi, alors il est revenu sur sa parole. C'est devenu le sujet d'une pièce de Shakespeare. Même chose pour Ézéchiel dans la Bible, qui a dit qu'il annulerait les dettes des gens, mais qu'il ne l'a pas fait. C'est ce qui rend le premier millénaire avant Jésus-Christ très différent de l'âge du bronze. En 133 avant Jésus-Christ, à Rome, vous aviez essentiellement la philosophie de Milton Friedman, celle d'un libre marché où existe une oligarchie. Ce qu'ils ont réalisé à Rome est exactement ce que Richard Nixon et Henry Kissinger ont réalisé au Chili. Vous ne pouvez pas avoir un libre marché pour les créditeurs, à moins de tuer quiconque n'est pas d'accord avec vous. Pas moyen d'avoir un libre marché bon pour l'oligarchie, à moins de tuer quiconque promettrait d'annuler les dettes, quiconque connaît l'histoire, et les leaders syndicaux faire bonne mesure. Alors, dans la Rome de l'Antiquité, ils ont tué les Gracques, ils ont tué tous les autres supporters de l'idée de l'annulation des dettes. Une guerre sociale d'un siècle a suivi. Le résultat a été qu'au moment où l'Empire romain a débuté, un quart de la population romaine était réduite à l'esclavage à cause de leur endettement. Au Moyen Âge, après l'âge sombre, il y a eu quelque chose d'absent pendant l'Antiquité, la dette publique. Toutes ces dettes publiques étaient des dettes de guerre. En gros, ça a commencé quand de grandes banques ont prêté au roi afin qu'ils puissent mener leur guerre. Au moment des guerres napoléoniennes, 75% du budget public britannique servait au paiement pour le service de la dette. Alors, au moment de la Révolution américaine, Adam Smith et le révérend Richard Price et d'autres ont dit « Félicitations aux révolutionnaires américains ». Ils ont dit de les laisser obtenir leur liberté. Ça vaut pas la peine de leur mener une guerre, c'est trop coûteux. C'est à cette époque-là que Richard Price a dit que si un penny avait été épargné à un taux de 5% au temps de Jésus-Christ, ce penny serait maintenant devenu une sphère d'or massif qui s'étendrait du Soleil jusqu'à la planète Saturne. J'ai refait ces calculs et en fait la sphère s'étendrait jusqu'à Uranus. Richard Price essayait de démontrer l'impossibilité de repayer la dette nationale anglaise de son temps. On sait aujourd'hui que des riches ont épargné des pennies au temps de Jésus. Le philosophe Sénèque a empoché 20% sur ses prêts accordés en Asie mineure. Cicéron, lui aussi, faisait beaucoup de prêts. Jamais ces dettes-là n'ont été repayées, parce qu'encore et toujours, il y avait des faillites. L'endetté ne pouvait plus payer et devenait un esclave. La bonne chose avec les lois sur la faillite qui existent de nos jours est que non seulement la dette est effacée, mais quelque chose d'encore mieux arrive, l'épargne du riche disparaît. Aujourd'hui, vous avez 99% de l'épargne aux États-Unis possédée par le 10% le plus riche des Américains. Voici ceux qui, aux États-Unis, essaient de faire aujourd'hui à l'économie américaine ce que l'oligarchie a fait à Rome, c'est-à-dire imposer une sorte d'asservissement à la population entière. Une situation où si vous souhaitez acheter une maison, vous aurez à prendre une hypothèque sur 30 ans pour ensuite passer le reste de votre vie à faire des paiements sur votre dette hypothécaire pour avoir un toit au-dessus de la tête. Alors que les terres étaient gratuites pour tous les citoyens américains auparavant. Pour avoir une éducation, vous avez à payer des prêts étudiants qui vont absorber votre revenu pendant 10 à 20 ans. Et la dette étudiante aux États-Unis n'est pas sujette à la loi sur la faillite, ne peut pas être effacée. Alors le résultat est le même que vous vous trouviez un emploi ou non, vous avez à payer la dette étudiante. Le résultat est que les étudiants, s'ils échouent à trouver un emploi, sont forcés à vivre chez leurs parents. Les parents sont forcés de payer la dette étudiante. Vous avez la société américaine entière qui est maintenant tellement alourdie par la dette qu'un quart des ménages doit plus en dette qu'il n'y a d'argent disponible dans l'économie pour la repayer. Bref, l'argent, c'est la déflation des dettes. Voilà pourquoi on a de mauvaises statistiques pour l'emploi. Par exemple, le jour suivant le dernier discours d'Obama, les chiffres sur l'emploi ont été rendus publics. Et tous les articles de tous les journaux ont tous réagi avec les deux mêmes mots. Inattendu et surprenant. Hier, le Financial Times a rapporté le crédit des consommateurs aux États-Unis. Ils ont dit que le crédit des consommateurs a chuté en février, toujours en répétant que c'était surprenant. Qui aurait pu le prévoir? Il y aurait eu une baisse surprenante de la dette. Eh bien, voici ce qui arrive. Les gens ont à repayer leurs dettes, ou alors ils vont recevoir des coups de téléphone assez désagréables. Si vous payez votre créditeur, vous n'allez pas ensuite vous payer des biens et services. Vous renoncez à certaines dépenses. Aux États-Unis, vous avez 40% du budget des travailleurs qui servira à payer le logement. 15% des salaires est enlevé aux travailleurs pour leur retraite et l'assurance santé. Alors que le gouvernement n'a pas vraiment besoin de cet argent-là. Le gouvernement dit alors qu'ils veulent maintenir les salaires bas et les coûts des soins de santé bas. Alors, on va vous forcer d'épargner à l'avance pour votre retraite en percevant l'argent tout de suite. Et avec cette somme amassée, on aura les moyens de baisser l'impôt des riches et faire semblant que le tout atteint l'équilibre. Et après, on a la commission Bowles-Simpson qui nous dit « Voilà, on n'a pas les moyens de payer vos retraites. » C'est toujours la même rengaine. Le gouvernement arrive toujours à payer les riches et échoue à payer les retraités. Voilà la dynamique qu'on a aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, alors on passe à musique avec la chanson « Arlon » de Salomé Leclerc.
Thank you.
Donc, de retour, on passe à la dernière capsule, la quatrième capsule, sur l'histoire de la monnaie. C'est un 4 minutes de plus.
Finalement, ce qu'on a aujourd'hui comme conséquence, c'est un gouvernement états-unien qui absorbe de l'argent pour le service des dettes et pour le sauvetage des banques à coût de 13 000 milliards de dollars. Les dettes des particuliers ont été laissées en place dans l'économie américaine et les corporations sont forcées de payer suffisamment le salarié moyen qui est criblé de dettes. Une compagnie qui engage un travailleur doit lui donner un salaire assez haut pour que le travailleur mette la moitié sur son logement, 15% pour ses retraites, 15% pour d'autres dettes et 10% pour d'autres taxes. Alors, avant que le travailleur ait assez d'argent pour seulement commencer à se procurer des biens et services, 75%, 80% de son revenu, de son chèque de paye, s'en va directement dans les mains des secteurs de la finance, de l'immobilier ou des assurances. L'économie, en gros, est devenue deux économies. Aux États-Unis, la Fed et le gouvernement ont pu monétiser assez d'argent pour que les paiements sur la dette continuent à se faire. C'est pas le cas en Europe. Chaque banque centrale est censée monétiser les dettes gouvernementales, c'est-à-dire créer de l'argent, le confier au gouvernement, pour qu'il dise « voici les montants qu'on va dépenser dans l'économie ». Cette croissance de la dette gouvernementale dans chaque pays est ce qui a permis de fournir au secteur privé assez d'argent pour que le privé continue de croître et puisse faire toutes ses transactions de biens et services. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le gouvernement de Bill Clinton a réussi à atteindre un surplus budgétaire. Ça voulait dire que le gouvernement ne dépensait pas dans l'économie. Le monde ordinaire est alors forcé d'emprunter, emprunter aux banques, avec intérêt. Ça a été une période extraordinaire pour les banques, parce qu'elles seront les seules à prêter au monde ordinaire. Alan Greenspan conseillait aux gens d'emprunter en mettant leur maison comme garantie. Prenez-vous des hypothèques sur 3 ans parce que l'Américain moyen déménage à tous les 3 ans. Il n'y aura pas de problème parce que moi, Alan Greenspan, je vais toujours fournir assez d'argent pour que tout le monde devienne riche en empruntant toujours plus. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité où des gens avaient la certitude qu'ils devenaient riches en s'endettant. Chaque société dans l'histoire avant la nôtre a cherché à éviter les dettes, à éviter d'hypothéquer leur maison, à éviter de tels risques. Mais maintenant, nos ménages s'endettent. Vous pouvez voir le désastre qu'on aurait eu aux États-Unis si on avait fonctionné comme l'Union européenne. Eux, ils n'ont pas de banque centrale qui monétise directement les dettes des gouvernements. Leur loi européenne force cette idée que les banques privées doivent fournir tout l'argent dont le secteur privé a besoin pour croître. Le phénomène auquel on fait face aujourd'hui et la déflation des dettes. C'est que les gens ont à payer leurs dettes et ils n'ont pas besoin de le faire. Dans l'Antiquité, un leader, un vrai leader, aurait effacé ses dettes du jour au lendemain. Alors que maintenant, dans nos esprits, c'est inimaginable. Si j'ai donné ce contexte historique, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a deux sphères dans l'économie. Les produits financiers et hypothécaires, et de l'autre côté, les vrais biens et services. Les départements d'économie parlent comme si l'argent ne servait qu'à échanger des biens et services, mais 99% du crédit bancaire est dépensé sur des hypothèques, des prêts, des titres, des bons, des actions, bref, sur des choses financiarisées et invisibles.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe.
C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose.
C'est notre petite chanson thème pour introduire les événements. Je vais passer vite, puisque idéalement, j'aimerais pouvoir parler avec Étienne un peu du sujet de l'histoire de la monnaie. Mais sur le médian réseauforum.org, réseauforum en un mot au singulier, là, juste la semaine dernière, il y a 45 événements engagés, pertinents, qui ont été ajoutés de Québec, quelques-uns à Lévis, mais vraiment, là, il y en a une centaine par mois à Québec, c'est assez surprenant. Et je vais vous présenter rapidement le printemps des alternatives, samedi le 25 avril à Québec. Il y a une vingtaine de groupes, beaucoup de groupes écologistes, mais d'autres aussi comme Amnesty International, vont présenter leurs idées, leurs activités, mais sous l'angle de projets concrets, d'alternatives, de pistes de solutions, si vous préférez, plutôt que l'angle habituel là, des revendications, donc plus dans le constructif. Beaucoup de kiosques, mais il y a aussi quatre grands ateliers. Je vous les nomme rapidement là. L'Alliance de la fonction publique vont parler des politiques de Harper. Bon, ça c'est le, c'est le côté un peu plus revendicatif dans ce cas-ci. L'association Manger Santé Bio va parler de comment soutenir les familles agricoles pour garder les sols et les forêts vivants. Attaque Québec, qui produit cette émission, va parler des alternatives fiscales. Et Crack Bitume, qui est situé à Limoilou, va faire un atelier sur le vermicompostage. Tout ça, c'est gratuit, samedi 25 avril, de 10h à 16h, au Centre Monseigneur Bouffard. Là, c'est un peu mêlant, parce que le Centre Monseigneur Bouffard, ils vont le rebaptiser Centre du Rocher, pour faire semblant qu'ils n'ont pas détruit le Centre du Rocher. Donc ça, c'est en fait, c'est dites-vous que c'est Marie de l'Incarnation, coin Raoul Jobin. Tous les détails sont sur le média réseauforum.org, mais je vous en nomme quelques autres, rapidement, là. Il y a le Festival de films de Portneuf sur l'environnement. Ça a lieu maintenant jusqu'au 26 avril, incluant aujourd'hui. Là, il y a des films intéressants aujourd'hui. Vous irez voir sur réseauforum.org pour tous les détails ou googler ça, comme on dit. Festival de films de Portneuf. Lundi 20 avril, tous les mois, je passe à l'action contre le saccage de Harper. Donc ça, c'est en fait c'est organisé par l'Alliance de la fonction publique canadienne. Qui est assez insurgé là, contre les politiques rétrogrades du gouvernement Harper fédéral. Il y a 6 rassemblements qui vont avoir lieu à Québec le lundi 20 avril. Vous pourrez aller voir ça aussi sur réseauforum.org. Mercredi 22 avril, Ensemble autrement. C'est le forum national du collectif pour un Québec sans pauvreté. C'est intéressant parce que c'est une approche vraiment inclusive. Donc, gênez-vous pas si ça vous intéresse. C'est un forum national du collectif contre la pauvreté, 22 avril. Aussi, Gabriel Nadeau-Dubois et Patrick Bonin de Greenpeace vont donner 3 conférences, 2 à Québec et 1 à Lévis, les 22 et 23 avril. Vous devinez que c'est principalement contre les nouveaux projets pétroliers. Donc, on a le Cégep Sainte-Foy, Cégep Garneau et Cégep de Lévis-Lauzon. Et finalement, je termine sur le 1er mai. C'est une journée symbolique assez importante dans le monde à chaque année. Et cette année, bon, il y a à Québec et ailleurs, là, il y a plusieurs actions qui vont avoir lieu, des actions syndicales, communautaires, des zones de grève sociale même. Et il y a un grand rassemblement le soir. Je vous donne pas tous les détails. Vous pouvez voir ça, tout ça sur Internet, sur le site réseauforum.org. Maintenant, je regarde l'heure. Et oui, j'ai le temps de parler un peu avec Étienne. L'histoire de la monnaie. Moi, la question que je vais poser, c'est quand même dans une société énorme là, comme la nôtre, ouais. On est rendu combien? 8 millions? Sans compter les transactions qu'on fait avec d'autres peuples ailleurs à travers le Canada, la monnaie, c'est quand même assez pratique. Mais dans le fond, c'est plus la dette qui est dénoncée là-dedans.
C'est ça. La monnaie peut exister parce que c'est comme une mesure. Hein? C'est juste pour que tout le monde soit fixé sur comment mesurer une dette. Le problème, c'est quand les dettes croissent. Et en fait, de lire sur l'histoire et d'écouter des historiens, ça m'a plus amené à me poser des questions, dont une, je sais pas qui pourrait me répondre là-dessus, mais c'est que je me demande si de nos jours, on est si niaiseux que ça, plus niaiseux que du monde qui vivait il y a 4000 ans. Là, je parle d'étudiants en mathématiques qui comprenaient déjà qu'une dette, ça augmente exponentiellement. Ça peut pas être repayé, à moins d'être repayé tôt, là, rapidement. Ça grossit, ça peut pas être repayé. Et qu'il y a 4000 ans, c'était une routine que d'annuler les dettes des gens. Et même la Bible impose ce commandement-là, c'est de dire à tous les 7 ans, effacer les dettes du monde ordinaire. C'est quelque chose de simple. Nous, j'ai l'impression que c'est presque alien, là. C'est totalement fou que de proposer quelque chose d'aussi simple alors que c'était routinier il y a quelques millénaires. Alors, est-ce qu'on est plus niaiseux aujourd'hui?
Au Québec, ils mettent même parfois des lois qui t'empêchent de faire faillite.
C'est ça.
Si je ne me trompe pas, les étudiants n'ont pas le droit de faire faillite.
Aux États-Unis, je n'ai pas vérifié au Canada. Là.
OK. Ouais. En tout cas, ça pose beaucoup de questions. Malheureusement, ouais. On n'aura pas le temps. C'est sûr que la monnaie demeure un outil pratique, mais on sait qu'aujourd'hui, le mouvement ATTAC dénonce beaucoup que le fait que... Il y a un niveau virtuel un petit peu absurde qui s'est créé, un niveau financier. Ça, c'est un autre niveau. On en pourra parler dans une autre émission, là, où on fait de l'argent avec de l'argent et c'est déconnecté de l'économie réelle. Oui. On n'est plus trop dans le concret. T'sais. Mais il nous reste 30 secondes, donc je vais quand même remercier Étienne Blondeau, toi, qui a fait pas mal tout le contenu de l'émission, traduit les capsules, avec l'aide de Michel Monnette, Dominique Bernier. David Maxime Sanson qui j'allais dire qu'il fait de la photo mais non c'est pas ça il fait ça aussi beaucoup
aussi.
Mais a choisi la musique aujourd'hui et moi aujourd'hui Michael Lassard qui faisait de l'animation, de la mise en onde et faut pas que j'oublie de donner le site internet legraindesableqc.wordpress.com. donc tu disais que t'allais mettre la version originale anglaise,
c'est déjà là,
de la conférence. Et il y a beaucoup d'autres trucs. Donc, restez à l'antenne. La prochaine émission, c'est Les Geeks contre-attaque à CKRL 89,1.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
J'y retombe dans le trou. Dans leur cage, les petits piolent leur masse. Leurs plumes valent plus qu'un signe de pièce. Jour par jour, éternelle survie. Sous l'œil des manites ou des petits. Aïe, aïe, aïe.
Alors, madame, est-ce que ça faisait?
Oui, mais je vais prendre juste le chemisier.
Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout?
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca.
Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'aérospatial, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1.
Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à l'achat de thé ou d'accessoires chez Seb's Thé et Lounge au 67 boulevard René-Lévesque Est. la carte de membre de CKRL. C'est pratico-économique.
Depuis 1950, Pneu Bazar est le spécialiste du pneu. On vous offre pour notre 65e anniversaire toutes les grandes marques au meilleur prix. Pneus usagés à partir de 30 $, neufs seulement 70 $ posés et balancés. On vous propose aussi un service mécanique comme les changements d'huile et les services de frein. Nous pouvons souffler vos pneus à l'azote. Service impeccable garanti. Pour en savoir plus sur nos rabais postaux, visitez notre site pneubazar.com. Ouvert de 8h à 17h en semaine et le samedi de 8h à midi. 70 3e avenue, 88-522-1130.
C'est peut-être de la chance, mais j'ai retrouvé ma tête dans une erreur de ciment, dans les chemins de serviette.
Panorama, le nouvel album de